Voice of Indonesia.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon l'Association pour les élections et la démocratie, les élections générales simultanées en Indonésie sont les élections les plus compliquées du monde. La Voix de l'Indonésie a tenu une discussion pour faire succès les élections simultanées. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche souhaite que l'Indonésie orientale augmente ses exportations vers le Japon. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a demandé une réduction des droits d'importation de la pêche japonaise. Madame Sri Mulyani a déclaré que le comité de stabilité du système financier avait examiné les risques potentiels de l'économie mondiale. Les TEN et Apple sont invités à garder des postes dans les pays frontaliers. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. La directrice exécutive de l'Association pour les élections et la démocratie, Madame Titi Anggraini, a exprimé son inquiétude que les prochaines élections générales seraient trop compliquées pour les électeurs à choisir rationnellement. Cela a été dit dans la talk show sur le forum diplomatique intitulé « Créer des élections simultanées réussies » organisée par Radio République Indonésia, La Voix de l'Indonésie à Jakarta, mardi. Selon Madame Titi Anggraini, au cours des années précédentes, les élections présidentielles ont été organisées séparément des élections législatives. Cette année, les électeurs indonésiens auront 5 bulletins de vote, comprenant le bulletin de vote pour l'élection du président et du vice-président, l'élection législative au niveau central, provincial, municipal et de la résidence. Madame Titi Anggraini a ajouté que dans sa circonscription électorale, il y avait au moins plus de 400 candidats aux législatives. Certains des candidats à la législature n'ont pas encore téléchargé leurs données biographiques sur le site web de la campagne. Elle a déclaré que son organisation avait recommandé de ne pas choisir le candidat comme celui-ci. M. Arif Budiman, le président de la Commission électorale générale, a déclaré, bien que les élections en Indonésie soient considérées comme les plus compliquées, le gouvernement indonésien était prêt à organiser des élections. La Commission électorale générale possède près de 8 millions d'employés. Selon lui, l'élection générale 2019 en Indonésie était l'élection la plus chère de l'histoire en termes de coûts, de personnes, de votes et de processus de décompte des voix. Les élections simultanées le 17 avril 2019 enregistrera une nouvelle histoire dans la mise en œuvre des élections générales en Indonésie. Pour la première fois, les élections du président et du vice-président et l'élection des législateurs ont lieu simultanément. La mise en œuvre nécessite le soutien de tous les médias pour diffuser des informations sur les élections au public. Voice of Indonesia a participé au succès de l'élection simultanée en diffusant des informations, notamment aux citoyens indonésiens vivant à l'étranger, avant qu'ils comprennent mieux les élections et se soucient des élections. C'est ce qu'a affirmé le chef de la voix de l'Indonésie, M. Agung Susatyo, lors de l'ouverture de la discussion en langue anglaise du forum diplomatique sur le thème « Faire succès des élections simultanées » mardi à Radio République indonésienne. Cette discussion a été assistée par M. Arif Budiman, président de la Commission des élections générales, les membres du Conseil de surveillance des élections générales, le coordinateur de la division juridique, Fritz Edward Siregar, et le directeur exécutif de Perludem, Mme Titi Anggraeni. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche souhaite que les exportations nationales de produits de la pêche au Japon ne soient pas seulement dominées des régions de l'ouest de l'Indonésie, mais puissent également être par des régions de l'est de l'Indonésie. Cela a été déclaré par l'autre fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Rifki Effendi Hardianto, mardi au Forum d'investissement des affaires Indonésie-Japon, qui a eu lieu mardi à Jakarta. Selon lui, diverses régions de l'est de l'Indonésie le plus potentiel pour exporter directement vers le Japon, entre autres Makassar, dans la province de Sulawesi du Sud, et Manado, dans la province de Sulawesi du Nord. Rifki a dit que le forum a été participé par 13 entreprises du secteur de la fabrication et de la logistique, initié par l'Organisation japonaise du commerce extérieur, ou JETRO. D'autres entreprises de l'Indonésie qui ont été présentes, entre autres dans le domaine du traitement, du transport et du commerce. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche souhaite que les coûts d'exportation des produits de la mer et des produits de la pêche nationaux vers le Japon soient réduits à travers la réduction des droits d'importation japonais sur les produits de la pêche en provenance d'Indonésie à 0% comme dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes, Nilanto Prabowo, lors de l'ouverture mardi du Forum d'investissement des affaires Indonésie-Japon au bureau du KKP à Jakarta mardi. Selon lui, l'inquiétude contre la différence tarifaire d'importation pour les produits d'exportation de la pêche indonésienne par rapport aux autres pays est la préoccupation des parties prenantes nationales. Dilanto estime que si l'Indonésie obtient le droit d'importation de 0% du Japon, cela contribuera grandement à la performance du secteur de la pêche japonais. En outre, l'état des eaux indonésiennes est réputé d'être amélioré, notamment grâce au succès de l'éradication de la pêche illégale. Le Comité de la stabilité du système financier, ou KSSK, continue d'observer les risques mondiaux et nationaux, bien que la stabilité du système financier est maintenue et dans des conditions normales. C'est ce qu'a déclaré Mme Sri Mulyani Indrawati, la ministre des Finances, qui est également la présidente du Comité de stabilité du système financier, ou KSSK, dans une conférence de presse tenue à Jakarta mardi. Elle a déclaré que les risques mondiaux comprenaient l'affaiblissement de la croissance économique mondiale, la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis et le potentiel du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. En outre, les risques internes sont la possibilité d'un déficit de la balance commerciale et la balance du compte courant qui a grandi et la segmentation de la liquidité. Le ministre chargé de la politique, des lois et de la sécurité, M. Wiranto, a demandé aux forces armées, ou TNI, et à la police indonésienne de garder des postes d'État transfrontaliers créés par le gouvernement. C'est ce qu'a affirmé M. Wiranto après la séance de la coordination du contrôle et du développement de la frontière d'État en 2019, lundi à Jakarta. Il a dit que la fragilité de la zone frontalière devenait une lacune de l'entrée du trafic de drogue, des terroristes, etc. Selon lui, la fragilité de la région frontalière en raison de la difficulté des réseaux de communication, de l'absence de réseaux d'électricité et du manque de moyens de transport. Par conséquent, le gouvernement Joko Widodo Yusuf Kala a construit 7 postes frontaliers dans les régions frontalières à partir de 18 postes frontaliers qui seront construits. En plus de la défense et de la sécurité, il faut également construire une école primaire, un marché, un centre de santé pour le public, un centre d'artisanat communautaire qui est capable de créer une nouvelle économie dans la région frontalière. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les signes de la restauration des relations diplomatiques entre le Japon et la Corée du Nord ». Après le dégel dans les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, le Japon essaie d'améliorer ses relations avec la Corée du Nord. Même s'il s'agit encore d'un discours, le premier ministre japonais Shinzo Abe a l'intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un afin de discuter d'un certain nombre de problèmes entre les deux pays. Le souhait de Shinzo Abe a été exprimé lors d'un forum officiel, à savoir l'ouverture de la session du Parlement lundi. Shinzo Abe a déclaré qu'il rencontrerait immédiatement Kim Jong-un afin d'encourager le début d'une nouvelle phase des relations entre les deux pays. Selon Abe, l'une des priorités est le rétablissement des relations diplomatiques, y compris l'enlèvement de citoyens japonais qui a visité la Corée du Nord. Le premier ministre japonais a déclaré que sa visite en Corée du Nord dans le but de la normalisation diplomatique du passé qui n'était pas favorable. La déclaration de Shinzo Abe est très différente de ce qu'il a affirmé l'année dernière et une menace pour la Corée du Nord. Les deux pays sont hostiles depuis l'agression japonaise sur la péninsule coréenne à l'ère de la Seconde Guerre mondiale. Les efforts de décaissement hostile ont été faits dans les années 90 par la négociation, mais l'effort de paix a échoué. La Corée du Nord demande au Japon de compenser ce qu'on appelle des dommages pendant une période d'agression. Le Japon insistait à la Corée du Nord de mettre fin aux essais nucléaires avant que la compensation soit donnée. Les tensions entre les deux pays après les négociations qui ne marchent pas et plus augmentées en raison de l'enlèvement par l'agent nord-coréen contre les citoyens japonais qui ont visité la Corée du Nord. Le gouvernement de Pyongyang a fermement nié les enlèvements. La tension concernant l'enlèvement a diminué par des informations selon lesquelles Pyongyang libérait un touriste japonais, comme l'a annoncé l'agent de presse officiel de la Corée du Nord, KCNA. Selon des informations, l'arrestation d'un touriste japonais par l'autorité nord-coréenne, causée par l'accusation que le citoyen japonais aura filmé sur vidéo l'une des installations militaires de la Corée du Nord. La déclaration formellement transmise par le premier ministre Shinzo Abe est le signe de la libération des citoyens japonais qui ont été arrêtés en Corée du Nord. Sont-ils un signe que les deux pays commencent à rétablir les relations entre les deux pays? En effet, cela atteint le processus suivant. Lorsque la reprise des bonnes relations pourra être réalisée, il y aura certainement des changements géopolitiques en Asie, notamment en Asie de l'Est. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Adolf Hitler était assermenté chancelier de l'Allemagne. Adolf Hitler était un homme politique allemand et président du parti nazi. Il a été chancelier de l'Allemagne de 1933 à 1945 et dictateur de l'Allemagne nazie de 1934 à 1945. Après avoir été nommé chancelier le 30 janvier 1933, il a transformé la République de Weimar en Troisième Reich dictature à parti unique fondé sur l'idéologie du nazisme totalitaire et autocratique. L'autre information est sur le bateau de croisière allemand Wilhelm Gustloff accoulé. Le 30 janvier 1945, le navire transportant plus de 10 000 Allemands a quitté le port de Danzig avant d'être coulé par les sous-marins soviétiques peu après avoir atteint la mer Baltique. Cet incident a coûté la plus victime dans l'histoire de la vie maritime. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Mahatma Gandhi a été tué par un extrémiste hindou. Le 30 janvier 1948, le chef politique et spirituel du mouvement indépendantiste indien, Mohandas Karamchand Gandhi ou Mahatma Gandhi, est victime d'un meurtre. Gandhi a été abattu à New Delhi par un disciple de nationaliste hindou extrémiste. Serviteur, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Thank you.
C'est toute la chanson intitulée « Angin Malam » chantée par Krisha. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Et voici mon Indonésie, dont le titre est « BUMN soutient la créativité millénaire des musulmans à travers le festival islamique de Nexen ».
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre BUMN soutient la créativité millénaire des musulmans à travers le festival islamique de Next Gen. Le ministère indonésien des entreprises d'État soutient la génération millénaire indonésienne pour continuer à être créative et de produire des œuvres positives à travers le festival islamique de Next Gen organisé par l'Université de Telkom à Bandung dans l'ouest de Java. La ministre indonésienne des entreprises d'État, Rini Sumarno, accompagnée des députés du ministère des entreprises d'État et des directeurs des entreprises d'État, était présente à l'événement avec le thème « L'esprit des millénaires, festival islamique de Next Gen » consacré à la génération des musulmans millénaires dans toute l'Indonésie. Dans son discours, Rini Sumarno a déclaré que le festival islamique de Next Gen était un forum qui peut encourager les générations millénaires à développer pleinement leur potentiel. Elle est fière des entreprises d'État millénaires impliquées et sont actives dans des activités positives. Elle indiquait que la génération du millénaire continuerait d'être passionnée et créative. Les entreprises d'État millénaires et les jeunes centrés doivent également être créatifs, indépendants et participer à la construction de la nation et de l'État. Dans le festival islamique de Next Gen, on a présenté le talent et la créativité des générations musulmanes regroupées en trois catégories de compétition, à savoir hijab muda pour les femmes musulmanes talentueuses et inspirantes, nada islami pour les musiciens religieux islamiques et les affaires de santri pour santri avec un esprit entrepreneurial. Chaque compétition pourrait produire différents talents allant de la musique. La création est aussi faire des affaires pour que ces nouveaux talents puissent inspirer d'autres musulmans millénaires dans toute l'Indonésie. Comme musulmans millénaires indonésiens qui sont créatifs, inspirants, tolérants et amoureux de l'Indonésie. À cette occasion, la ministre Rini a officiellement inauguré l'événement comme signe du lancement d'une série de tournées de promotion du festival islamique de Next Gen qui se dérouleront dans trois grandes villes et six villes, régions, municipalités en Indonésie. Des milliers de jeunes générations millénaires des entreprises d'État, des étudiants de l'Université Telkom et des centres d'internat islamique de la région de Java occidentale ont assisté à cet événement avec l'enthousiasme. La génération millénaire représente désormais environ 60% du nombre total employé des entreprises d'État, soit 1 million de personnes. La ministre Rini espère que cette génération pourra être un bon leader pour encourager des meilleures performances pour les entreprises d'État. Le festival islamique de Next Gen pour la région de l'Ouest de Java présente également des points de vente pour jeunes entrepreneurs musulmans, la maison créative des entreprises d'État et les affaires de santri. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Terbang jauh ke awan, rasa rindu kian menawan, dingin dan kelam remukanku di dalam. Meluap tak terbendung,
kau pergi berlari dan
Voice of Indonesia.
Voilà la deuxième chanson intitulée Meski Telah Jauh, chantée par KLA Project. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter le hameau traditionnel de Ciptagelar. Serviteur, le hameau traditionnel de Ciptagelar est l'un des villages de Sukabumi en province de Jawa West. le amour traditionnel qui est inclus dans Kesatuan Adat Banten Kidul ou l'unité de la tradition du sud de Banten conserve encore la tradition et la coutume qui a été héritée il y a 640 années. Visiter le hameau est vraiment agréable. À ce village, vous pouvez sentir la vie traditionnelle et profiter également des valeurs traditionnelles locales. Administrativement, le hameau Cipta Gelar est situé dans le village de Sukamulya, sous-communauté de Cisolok, la résidence de Sukabumi en province de Java West. Le hameau de Cipta Gelar est situé à environ 103 km de l'administration centrale de Sukabumi et autour de 203 km de Bandung, la capitale de Java West. Cipta Gelar peut être accédé en utilisant le véhicule de 2 ou 4 roues. Le hameau traditionnel de Cipta Gelar a l'air frais et froid. Les maisons des gens locaux ont les mêmes formes et sont propres et sont bien rangées. Les maisons des populations locales sont des maisons sur pilotis avec des poteaux en bois. Les murs des maisons sont faits de bambous tressés avec des toits en fibre. Les villageois ont leurs propres caractéristiques de s'habiller. Les hommes portent le tissu noir et la bande de tête noire, tandis que les femmes portent kebaya sundanese simple ou les blouses à manches longues traditionnelles de javanaise. Si vous visitez le village Cipta Gelar et portez la bande de tête noire, vous serez considéré comme partie de la communauté villageoise. L'administration centrale du village traditionnel Cipta Gelar est appelée le village Gede. Au village Gede, il y a Imah Gede. Imah Gede est une maison du chef indigène traditionnel qui est aussi un endroit du chef indigène traditionnel de gouverner et de diriger le village. Cipta Gelar est dirigé par Abba qui est nommé héréditairement dans la vie quotidienne. Les villageois demandent toujours la bénédiction et la permission d'Abba à faire leurs activités et leurs travaux. Abba décide également le décret et la politique du village, de sorte que le rôle d'Abba est semblable comme un roi. Serviteur, le hameau traditionnel de Cipta Gelar est très ouvert pour les touristes nationaux ou étrangers. Il est en conformité à son nom, Cipta Gelar, qui signifie ouvert, de sorte que Abba et Cipta Gelar et les villageois respectent chaque invité qui vient. Si vous visitez le village, vous devez visiter premièrement Imah Gede et rencontrer Abba pour demander la permission. Visitez Cipta Gelar, vous pouvez voir la belle nature et les activités quotidiennes des villageois de Cipta Gelar comme plantation de riz et de jardinage. En outre, ce village est riche avec des rituels ou des cérémonies traditionnelles telles que le rituel de ngasek qui se tient avant la plantation de riz, le rituel de sapin qui a lieu une semaine après la plantation de riz, d'autres rituels. De tous les rituels, le rituel Serentahun devient le pic de l'événement de Cipta Gelar. Serentahun est une cérémonie pour exprimer la gratitude sur la récolte. Cette cérémonie se déroule habituellement à la première semaine de septembre. Serviteuses et serviteurs, c'était le magazine Kultura pour ce soir avec le titre « Le hameau traditionnel de Cipta Gelar ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Malida intitulée « Semua Jadi Satu ». Et vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Informatie. Je répète, Informatie. En français, les informations. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation entre Tony et le commis d'aéroport intitulée Informatie, qui signifie des informations.
Permisi, Bu.
Ya.
Di mana koper saya akan keluar?
Pesawat apa, Pak?
Pesawat Garuda dari Jakarta.
Oh, di sana. Itu di ban berjalan nomor 3.
Terima kasih, Bu.
Sama-sama.
Comme d'habitude, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, informatie. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Permisi. Permisi. En français, excusez-moi. Di mana koper saya akan keluar? Di mana koper saya akan keluar? En français, où ma valise va sortir? Pesawat apa? Pesawat apa? En français, quel avion? Ban berjalan nomor 3. Ban berjalan nomor 3. En français, le tapis roulant numéro 3. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. En français, merci, madame. Sama-sama. Sama-sama. En français, je vous en prie. Pour poser des questions sur l'emplacement d'un lieu, vous pouvez utiliser le mot di mana. Je répète. Di mana? En français, où? Dans le dialogue, Tony veut connaître où il peut prendre ses bagages. Il demande: Di mana koper saya akan keluar? Di mana koper saya akan keluar? Qui signifie où ma valise va sortir? Et si vous voulez demander l'emplacement de toilette, vous pouvez demander: Di mana toilet? Di mana toilet? Qui signifie où est le toilet? Pour répondre à cette question, vous pouvez y répondre en indiquant les propositions de lieu. Di sana? Ou en français là? Di lantai dua? Ou en français au deuxième étage? Di luar bandara? En français, dehors de l'aéroport, selon l'emplacement. Pour commencer la conversation, si vous voulez demander quelque chose à l'agent ou à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous devez utiliser le mot permisi. Permisi. En français, excusez-moi. Vous pouvez également dire maaf. Boleh saya bertanya? Maaf. Boleh saya bertanya? En français, désolé, puis-je demander? Avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Permisi, Bu.
Ya.
Di mana koper saya akan keluar?
Pesawat apa, Pak?
Pesawat Garuda dari Jakarta.
Oh, di sana. Itu di ban berjalan nomor 3.
Terima kasih, Bu.
Sama-sama.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Hatiku merah. sesuatu telah tiada. Kurindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri untuk mengganti yang telah pergi.
Toujours avec nous, à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Encore avec moi, Tiwi. Dans la rubrique du magazine Musica. Cette édition va vous présenter la chanson de Kalimantan Dusut, dont le titre est Balarut di Sungai Mahakam. Elle a été créée par Julian Shah et chantée par Dinda Effendi. Les paroles de la chanson intitulée Balarut di Sungai Mahakam sont en langue de Kutai. Balarut signifie se sentir calme jusqu'à s'éloigner, de sorte que le titre de cette chanson puisse signifier « S'éloigner sur la rivière de Mahakam ». Cette chanson raconte de l'histoire et de la beauté de la rivière de Mahakam. Dans le passé, les mineurs utilisaient la rivière Mahakam pour transporter du charbon et du bois. La rivière Mahakam est entourée de palmiers sagou dont les feuilles se blanchent au vent. La chanson « Belarut » du Sungai Mahakam, dont le rythme est joyeux et les paroles sont simples. Cette chanson invite les auditeurs à chanter ensemble et à profiter du charme de la rivière Mahakam. Bon, chers auditeurs, voici la chanson « Belarut » du Sungai Mahakam, chantée par Dinda Effendi. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Martapura Kuta Bintang. Dan Martapura Kuta Bintang, Kuta nang aman tanang sanang wan nyaman. Ayolah kasih kita datangi Kuta nang banyak santri ini. Ayolah kasih kita datangi sambil mencari sang mati. Kuta Martapura mandamayakan hati. Pakai baju seragam putih-putih, bulatkan matang jauh, cari cahaya iman. Hampir setiap waktu jalanan selalu ramai, hulu hilir mudik pulang balik tulang mengaji. Kada lagi peduli berapa tuha umur, karena saking asyiknya nimba ilmu di situ. Kuta Martapura mandamayakan hati.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web de www.voinews.id. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir!